Alors aujourd'hui, on parle de la passion et la résurrection du Christ. Donc on est au cœur de l'Évangile, au cœur de notre foi. La phrase de 1 Corinthiens, si le Christ n'est pas ressuscité, notre proclamation est sans contenu, notre foi aussi est sans contenu. Près de la moitié, si on regarde en longueur, la moitié de l'Évangile de Saint Jean est consacrée à ces événements. En fait, ça démarre au lavement des pieds. Tous les adieux de Jésus, et chez Saint Jean, c'est un très très long discours. La prière sacerdotale qui termine ces adieux, et puis après le procès, toute la passion, la croix et la résurrection. Donc en fait, c'est une grosse partie, puis c'est quand même le cœur de l'évangile. Ce qu'on peut souligner, c'est que le ton des évangiles est très sobre, donc on n'est pas du tout dans Voilà, c'est pas Mel Gibson. Donc on est beaucoup plus. Enfin, c'est même très sobre, la phase, enfin les quelques phrases sur la partie portement de croix et crucifixion sont vraiment très rapides. Et en fait, ça fait l'idée, c'est de faire ressortir le côté dramatique, donc de montrer encore plus le côté impressionnant de cette mort. Pendant la passion elle-même, donc on a des discours d'adieu, mais après, si on prend à partir du moment de Gethsémani, on a très peu de paroles de personnes, enfin il y a peu de paroles échangées. Et ce qui est mis en évidence, ce sont les écritures, puisqu'il y a les paroles qui sont dites, soit les paroles de Jésus qui viennent des psaumes, avec les deux phrases, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné, par exemple, mais aussi de nombreuses citations de l'Ancien Testament. Je vous ai mis un certain nombre de références du prophète Zacharie, et puis on a aussi des références sur le partage des vêtements. Phrase de Zacharie, ça fait référence aussi aux femmes de Jérusalem, au cœur transpercé, etc. Enfin, je vous les laisse les regarder. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que les événements sont très denses. Quand on prend juste le déroulé de la Passion, et on sait bien quand on la lit le Vendredi Saint ou au Rameau, on a énormément d'événements qui se déroulent là. Et quand on est sur place à Jérusalem, on voit bien aussi tous les trajets qu'il y a eu et tous les différents lieux où ça s'est passé et dans le temps. Donc on est sur des événements qui sont très denses. Alors évidemment, on ne peut pas tout dire et mon cours n'est absolument pas exhaustif sur le sujet. Donc on va vraiment se concentrer sur ce qui se joue dans la passion et la résurrection, donc un peu le cœur du sujet. Et on ne va pas parler aujourd'hui des effets de la rédemption, parce que ça, ce sera le cours prochain, qui est plus comment est-ce que ça, qu'est-ce que ça change pour nous, qu'est-ce que ça veut dire le salut pour nous, le pardon, la réconciliation, la divinisation aussi. Donc aujourd'hui, ce qu'on va aborder, c'est finalement le fond du mystère. Qu'est-ce qui, dans la croix du Christ, et à ce moment-là surtout, a opéré notre salut, c'est-à-dire à changer les relations entre Dieu et l'homme, et avec un caractère définitif. Donc, qu'est-ce que c'est que ce salut? Et puis, on va suivre un peu le texte de la lettre aux Hébreux que je vous invite à lire, qui est très, très dense, très riche. Je vous ai mis énormément de citations des Hébreux. C'est une lettre qui est vraiment tournée sur le mystère de la croix, et avec plein de références à l'Ancien Testament. Enfin, on va un peu la découvrir au fur et à mesure. Du coup, je n'ai pas du tout un déroulé linéaire, ce qui peut-être est compliqué d'ailleurs à suivre. J'espère que vous n'allez pas être complètement perdu. J'ai plutôt essayé de prendre des angles de vue parce que finalement, si on lit là, je suppose que vous l'avez déjà fait, lu en chronologie, donc ça, voilà, c'est souvent ce qu'on fait. Mais là, pour regarder un peu plus en théologie, c'était de prendre un certain nombre de regards et pour se dire du coup, quels sont les éléments qui viennent enrichir ce regard et nous donner des perspectives. Donc, dans la première partie, ce que je voudrais voir, c'est comment le salut, enfin, ce qui se joue dans la passion et la passion, en fait, est quelque chose en rapport avec la restauration de l'ordre initial, et donc en rapport avec le péché originel. Excusez-moi, je suis partie, voilà. Donc, le premier point, pardon, c'est le jugement. Donc, on voit bien que dans les événements, juste après, enfin, le matin, c'est le jugement de Jésus. Donc on a le procès, alors qui se fait en plusieurs temps, puisqu'il y en a un passage devant le Sanhédrin et un passage devant Pilate, et finalement qu'il condamne au supplice réservé aux esclaves. Donc on a tout ce grand procès. Mais finalement, si on lit les choses un peu différemment, on a aussi finalement une inversion, et c'est Caïphe et Pilate qui sont jugés, finalement c'est le monde qui est jugé. C'est ce que Jésus avait dit dans son discours d'adieu, donc en Saint Jean 12, Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde va être jeté dehors. Donc, on a une inversion de ce... Pardon. Du coup, j'ai... Voilà, excusez-moi. Donc, on a un peu une inversion de jugement. Et finalement, ce qui est jugé là et qui est condamné, c'est pas Jésus, finalement, c'est le péché dans la chair, c'est-à-dire l'état pécheur. Une phrase de Romain. « En effet, quand Dieu a envoyé son propre Fils dans une condition charnelle semblable à celle des pécheurs pour vaincre le péché, il a fait ce que la loi de Moïse ne pouvait pas faire à cause de la faiblesse humaine. Il a condamné le péché dans l'homme charnel. » Alors, quand il dit dans l'homme charnel, c'est vraiment dans l'état de péché, l'homme après le péché originel et qui est pécheur. Donc, du coup, Jésus, finalement, il a porté sur lui le péché du monde, et en ce sens-là, c'est le péché qui est jugé. Donc, Jésus a connu le jugement de Dieu, aussi, on peut dire ça. Jugement, c'est, ça veut dire tri, séparation, en fait. Et donc, Dieu a justifié son serviteur, il n'a rien vu en lui à reprendre. Le monde, au contraire, qui s'est dressé contre lui, a été condamné. Et donc Jésus est manifesté comme juste. Lui, il a même été jugé digne d'une plus grande gloire que Moïse. Donc il est mis au rang au-dessus de Moïse. Il a confondu le monde en matière de justice. Une autre manière de dire qu'il est au-dessus de la justice et que finalement c'est lui qui a été justifié. Et toute la thématique dans 1 Timothée sur les justifiés par l'Esprit. Donc là, c'est un premier regard, c'est l'histoire du jugement. Qu'est-ce qui est jugé dans la passion ? Un deuxième regard, c'est le rachat. Alors, la lettre aux Hébreux utilise ce mot de rachat pour parler du salut et du retour finalement à l'ordre initial, à l'héritage jadis promis. Voilà pourquoi il est médiateur d'une alliance nouvelle, d'un testament nouveau, puisque sa mort a permis le rachat des transgressions commises sous le premier testament. Ceux qui sont appelés peuvent recevoir l'héritage éternel jadis promis. Donc, on a bien cette idée On rebat les cartes finalement et on revient à quelque chose où c'est possible, où on rachète ce qui s'est passé pour pouvoir entrer dans l'héritage jadis promis. Alors, saint Paul met en avant dans beaucoup de ses lettres la libération de l'humanité et que cette libération, elle a un coût. C'est une opération qui a été onéreuse. Donc, il y a cette phrase, il a effacé le billet de la dette qui nous accablait en raison des prescriptions légales pesant sur nous. Je ne connais pas par cœur, alors tout est bloqué. Il l'a annulé en le clouant à la croix. Ça, c'est dans Colossiens. Et Jésus lui-même le dit, « Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Donc, on a ce terme de rançon qui introduit l'idée de substitution, où finalement, Jésus a pris notre place, c'est-à-dire qu'il a payé à la place de l'homme pécheur. Alors, on sait bien que l'homme s'est éloigné de Dieu et que ce retour est difficile. Non pas parce que Dieu veut qu'il soit pénible. C'est pas lui qui veut tout cette... c'est pas de sa faute. Enfin, c'est pas lui qui s'est éloigné. C'est nous qui nous sommes éloignés. Et donc, en fait, c'est que le péché rend l'homme ankylosé et le fait vivre dans un monde marqué par le mal. Et donc, pour traverser cet état, pour que Dieu prenne sa place dans notre vie, en fait, ça devient immensément onéreux. C'est quelque chose, on a comme une contradiction avec l'état de Jésus qui doit prendre les péchés. Et ça, c'est déjà en toi douloureux. Donc, il s'agit de renouer les liens que le péché avait défaits. Donc, on est en train de restaurer quelque chose. Alors, on pourrait dire que c'est une rançon, mais payée à qui, finalement ? Alors, est-ce que c'est à Satan ? Donc, beaucoup de pères de l'Église l'avaient un peu mis comme ça, c'est-à-dire comme s'il fallait payer une dette à Satan pour l'anéantir. Alors, en fait, c'est plutôt l'idée d'une remise de dette, d'une abolition de la dette, un peu comme quand on dit les dettes du tiers-monde, à l'heure actuelle, sont annulées. Ben voilà, elles ne sont pas payées, elles sont payées à personne, en fait, on ne rembourse personne, mais c'est comme si on remettait les choses à plat. Et on a payé, donc on n'en parle plus. Voilà. Alors, saint Anselme, dans Cur Deus Homo, envisage la rédemption comme un rachat. Donc, on est bien dans cette même thématique. Non pas un rachat de l'homme au griffes du diable, mais un rachat de l'homme à l'esclavage du péché. Donc, on est sur le thème de la libération. Et saint Anselme met en avant l'acte humain, puisque cette phrase, par la désobéissance d'Adam, le péché a corrompu l'ensemble de l'humanité. Et donc, il fallait, la mort étant entrée dans le genre humain par la désobéissance d'un homme, que de même la vie fut rétablie par l'obéissance d'un homme. Donc, on a cette obéissance qui rachète la désobéissance initiale. Mais il y a un reste de cette ancienne désobéissance qu'il faut réparer. Donc, il y a une sorte de dette qui reste entre l'homme, de l'homme envers Dieu, en tant que créature. Saint Anselme voit le péché essentiellement comme un manquement à l'honneur de Dieu. Tant que l'homme n'acquitte pas ce qui l'a ravi, il demeure dans la faute. Il ne suffit pas qu'il rende seulement ce qui lui a été ôté. Donc, on n'est pas juste dans... on fait le schéma inverse de Adam. On a l'offense infligée est telle qu'il faut rendre plus que ce qui a été ôté. Voilà. Et ce prix-là est si élevé que finalement qu'un homme ne peut le fournir. C'est pour ça que l'incarnation et la rédemption sont destinées à réparer ce qu'il y a de faussé dans les relations entre Dieu et l'homme, et qu'on a besoin qu'il y ait du divin quelque part pour aller jusque-là. Donc Saint Anselme prépare des images prises à l'honneur féodal, un peu, on est dans cette thématique-là, où le sujet défaillant doit satisfaire par un châtiment public à l'honneur seigneurial, bafoué. Mais l'honneur de Dieu n'est pas autre chose que le rétablissement de son plan sur l'homme. On peut reprendre la phrase d'Irénée, la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Et donc la réparation offerte par le Christ équivaut en fait au rétablissement de l'ordre qui préside aux relations entre Dieu et l'homme. Le Fils innocent s'est soumis jusqu'à la mort à la loi qui voulait que le péché soit puni de mort. Et donc on a cette inversion par la rançon finalement et le rachat que Jésus nous a octroyé. Alors une autre vision du rachat, c'est le sacrifice d'expiation pour les péchés. Donc c'était dans l'Ancien Testament un sacrifice particulier, c'est dans Lévitique, qui était un sacrifice en fait offert à Dieu pour le péché, les péchés, pour racheter les péchés. Donc tout grand prêtre en effet est pris parmi les hommes, il est établi pour intervenir en faveur des hommes dans leur relation avec Dieu. Il doit offrir des dons et des sacrifices pour les péchés. Ça c'est Hébreux 5. Donc on est vraiment dans cette chose assez classique du sacrifice. Voilà, on offre des sacrifices à Dieu pour compenser nos manques et nos péchés. Je vous cite d'autres passages de Hébreux qui parlent beaucoup de ce sacrifice d'expiation et qui fait beaucoup référence aux grands prêtres et aux sacerdoces. Et là, c'est une interprétation que Benoît XVI a faite dans Jésus de Nazareth 2, qui est aussi un livre qui m'a beaucoup aidée. Dernier cours, c'était Jésus de Nazareth, le premier tome. Là, c'est plutôt le deuxième tome, qui est aussi très riche sur ce thématique-là, puisque Benoît XVI démarre de l'entrée à Jérusalem, donc le Hosanna, enfin la partie où on est sur le... juste avant la Passion, et puis jusqu'à la Résurrection. Donc c'est un très beau document, très fouillé, avec plein de références. Donc là, c'est une phrase de Benoît XVI. « Dans l'échange de Jésus avec son Père lors de la prière sacerdotale, le rituel du jour de l'expiation est transformé en prière. Ainsi devient tangible le renouvellement du culte auquel visait la purification du Temple et les paroles prononcées par Jésus pour expliquer cet événement. Les sacrifices d'animaux sont dépassés, le sacrifice comme parole prend leur place. Elle est plus que parole, parce que cette parole éternelle a dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni oblation, mais tu m'as façonné un corps. » La parole est chair, bien plus elle est un corps donné, elle est un sang versé. Avec l'institution de l'Eucharistie, Jésus transforme son être tué en parole, dans la radicalité de son amour qui se donne jusqu'à la mort. Ce que veut dire Benoît XVI, c'est pas que tout doit s'arrêter au Jeudi Saint, donc il faut bien qu'il y ait derrière la croix. Ce n'est pas juste dans l'institution de l'Eucharistie que tout est joué, c'est parce qu'il y a derrière la réalité de la croix et que c'est une sorte de prémisse, enfin d'anticipation. Et ce qu'il veut dire par là, c'est que on passe finalement d'un sacrifice d'expiation dans l'Ancien Testament qui était plutôt lié à des sacrifices d'animaux. Et là, on est sur un sacrifice parce que de Jésus qui est parole. Et donc, quelque part, on est plus dans la dimension de la prière, par la parole, en fait. Voilà, donc, je trouve que c'est une bonne transcription pour dire que on a changé de type de sacrifice, mais que celui-là est encore plus puissant puisque c'est la parole, le Verbe de Dieu lui-même qui l'opère. Et finalement, le sacrifice de sa personne. Donc il faut quand même se souvenir que dans l'Ancien Testament, le sacrifice d'expiation était quand même un rite de guérison, de revivification. Donc on a bien la thématique, pareil, de guérir, où l'homme est guéri au plus profond de lui-même par le pardon des péchés. Donc on a bien ce parallélisme entre ce sacrifice d'expiation de l'Ancien Testament et l'offrande de Jésus et la passion du Christ. Alors pourquoi il y avait du sang ? Parce que l'effusion du sang a deux effets. D'une part, ça inaugure la présence de Dieu, parce qu'en fait, le sang, c'est la vie, et donc c'est la présence de Dieu qui est la vie, avec un grand V. Et le sang, il purifie du péché. D'après la loi, on purifie presque tout avec du sang, et s'il n'y a pas de sang versé, il n'y a pas de pardon. Hébreux 9, 22. Donc ça, c'est tout le texte de l'Ancien Testament, le texte de l'Exode aussi, puisqu'on sait que c'est aussi le texte de l'Exode qui dit « Voilà, c'est le sang de l'Alliance que le Seigneur a conclu avec vous sur la base de toutes ces paroles. » Donc on a cette dimension sang qui soude l'Alliance et qui obtient à la fois le pardon des péchés et finalement fait advenir Dieu. Dans l'Eucharistie, la nouvelle alliance est aussi liée au sang, puisqu'on a non seulement le pain, mais le vin, et qui est le vin transformé en sang. Le sang est répandu, et c'est l'élément tout à fait capital dans l'œuvre de rédemptrice du Christ. En lui, nous trouvons la rédemption par son sang, nous dit Éphésiens. Donc le sacrifice, c'est pas d'abord une immolation d'un animal, c'est pas d'abord un coût à payer, c'est d'abord une offrande. L'essence du sacrifice, c'est qu'on s'offre soi-même, en fait, qu'on offre ce qu'on est. Voilà. Et dans l'Ancien Testament, le sacrifice, c'est finalement l'obéissance à la loi de Dieu. C'est une forme de sacrifice. Donc le sacrifice n'a pas toujours été une immolation avec du sang, mais aussi cette idée d'offrande de soi dans l'obéissance à la loi de Dieu. Tout grand prêtre est établi pour offrir des dons et des sacrifices. Il était donc nécessaire que notre grand prêtre ait lui aussi quelque chose à offrir. Et c'est ce que nous dit Hébreux. Et Jésus, lui, a à la fois été le grand prêtre qui offre et la victime, puisqu'il s'est offert lui-même. Donc il est comme l'agneau immolé, un agneau parfait, car innocent et sans péché. Et on se rappelle que au moment de l'Exode, de la fuite de l'Égypte, l'agneau pascal était immolé, le sang de cet agneau était répandu sur les linteaux et le montant pour qu'il soit... Je fais entrer parce qu'il y a quelqu'un... bonjour, je ne sais pas. Je continue. Donc il est l'agneau et Pascal étaient immolés et le sang était mis sur les linteaux des maisons pour que quand l'ange exterminateur passe, il ne frappe pas les premiers-nés des maisons d'Israël. Voilà, donc on a bien ce côté à la fois protection et ce côté présence de Dieu finalement. Et de l'efficacité de ce sacrifice et de ce sang. Alors, juste une petite précision, selon la chronologie joannique donc de Saint Jean, qui est probablement la plus exacte, parce que les faits se déroulent de façon plus précise, et toutes les dernières études, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais toutes les dernières études montrent que c'est vraiment la chronologie qui est la plus précise par rapport aux trois synoptiques. Donc le dernier repas, le jeudi saint, donc c'est pas le repas pascal. Finalement, la Pâque, elle aura lieu le soir de la crucifixion. Donc on est la veille de sa passion. Jésus, finalement, il est conscient de sa mort imminente, puisqu'il y a ce don où c'est pas seulement il est crucifié, mais c'est lui-même qui s'est offert. Et donc il savait qu'il pourrait pas manger la Pâque le lendemain avec ses disciples. Et donc quelque part, il y a comme une anticipation de cette scène qui à la fois ne correspond finalement à aucun rite juif déterminé, et on voit bien qu'il n'y a pas du tout, on ne mentionne absolument pas l'agneau pascal par exemple, donc on mentionne le rite des bénédictions, de la coupe et du pain, mais absolument pas l'agneau pascal. Donc on est sur quelque chose d'un peu nouveau, un peu un caractère très particulier, où il donne ses adieux et finalement il institue quelque chose de nouveau. Et pourtant, comme il préfigure la passion le lendemain sur la croix. Or, le lendemain, sur la croix, c'est l'heure où, au même moment, plus ou moins, devaient être immolés les agneaux pascal dans le temple. Donc, on a, comme on est cette anticipation, c'est à la fois quelque chose de nouveau et à la fois, finalement, il accomplit le rite ancien en le transformant pour en sa Pâque à lui. Voilà. Et donc, ça institue, lui, il est le véritable agneau, et il institue ainsi la Pâque nouvelle. Alors ça, c'était un premier regard qui était un peu tourné vers le passé, vers par le passé originel, vers les premiers temps. Alors là, dans un deuxième regard, je voudrais regarder plutôt cette nouvelle alliance qui est meilleure que l'ancienne et qui est au profit de tous. Profit de tous, ça vient de Hébreux 2:9. Quand on est à la vigile pascale, on chante « Heureuse était la faute qui nous valut pareil rédempteur », ce qui peut parfois faire un peu bondir en se disant ben, « ça aurait été mieux s'il n'y avait pas eu la faute et qu'on n'avait pas eu toutes ces souffrances et ce mal ». Mais ça montre quelque chose que finalement on n'a pas juste restauré l'état initial, mais il y a une surabondance de salut et de l'amour de Dieu dans cette rédemption. Voilà. Et je fais aussi le parallèle entre la Genèse, où Dieu vit que cela était bon, voire très bon quand il crée l'homme, et puis la lettre aux Hébreux qui insiste sur le côté meilleur. Lui est médiateur d'une alliance meilleure reposant sur de meilleures promesses. Voilà. Il y a quelque chose de qualitatif, d'un saut qualitatif dans ce salut offert par Jésus-Christ qui restaure non seulement quelque chose qui aurait été possible en Éden, mais qui va beaucoup plus loin, puisque ce n'est pas seulement une relation de créateur à créature, de créateur à créature ou de créature à créateur, mais en fait quelque chose d'une abondance du salut qui nous donne la vie éternelle et la vie en communion avec Dieu. Donc une sorte de plus grande égalité quelque part. Alors, c'est quoi cette nouvelle alliance ? Donc, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour la multitude. On a là, d'une part, l'abrogation du commandement précédent à cause de sa faiblesse et de son inutilité, puisque la loi n'a rien mené à sa perfection. Et d'autre part, l'introduction d'une espérance meilleure qui nous fait approcher de Dieu. Donc, il y a quelque chose de... On change de registre. Avant, on avait finalement des sacrifices pour expiation, par exemple, mais qui était une loi qui, finalement, n'a pas permis, parce qu'elle n'était pas suffisante, parce qu'elle n'allait pas au cœur des choses, et donc elle n'a pas permis de nous faire entrer quelque part dans cette perfection de Dieu. Et d'autre part, cette nouvelle alliance, donc offerte par Jésus-Christ, elle nous fait approcher de Dieu. Donc on est dans une... Non seulement elle nous restaure dans une relation avec Dieu, mais en plus, elle nous fait approcher. Donc, on devient amis de Dieu. Voilà. Donc, la souffrance et la mort du Fils permettent le passage de l'ancienne alliance à la nouvelle pour ouvrir l'accès au ciel et à l'humanité perdue. Le Christ a offert sa vie. Donc, son sacrifice, l'offrande de sa personne au Père, se réalise sur la croix. Et le sang du Christ fait bien davantage, car le Christ, poussé par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même à Dieu comme une victime sans défaut. Son sang purifiera donc notre conscience des actes qui mènent à la mort pour que nous puissions rendre un culte au Dieu vivant. Toujours une citation d'Hébreu. Donc là, on a effectivement, qu'est-ce qui fait que cette offrande, elle est meilleure ? Eh bien, c'est que c'est Jésus qui est parfait, qui est une victime sans défaut, qui est l'innocent sans péché, qui s'offre à son Père, poussé par l'Esprit. Donc, on a vraiment cette dimension nouvelle de cette offrande. Et donc, ce qui était une image dans l'ancien culte se réalise parfaitement dans la personne du Christ. Parfaitement dans tous les sens, pleinement aussi, quelque part. La mort sur la croix est l'événement qui la purifie de son péché et qui inaugure la vie divine dans toute l'humanité. Donc, qui rejaillit sur nous tous. Voilà. Alors, quand on se penche sur les textes de l'institution de l'Eucharistie, on a d'un côté Matthieu et Marc. Et puis d'autre part, on a Paul, Luc, et puis dans 1 Corinthiens, on a aussi la retranscription de cette dernière scène et de l'institution de l'Eucharistie par Saint Paul. Donc dans Marc et Matthieu, on a seulement la parole sur le pain qui est seulement « ceci est mon corps », alors que chez Luc, on lit « ceci est mon corps donné pour vous ». Donc il y a ce « pour-là » et « au profit d'eux ». Donc voilà, il y a quelque chose qui est donné pour d'autres. Donc c'est pas juste je m'offre moi-même, c'est pour au profit des autres. Et là, on sait que Luc, tout comme Paul, qui emploie à peu près la même expression, pense à la communauté des disciples. Alors dans Marc, on a le sang, donc pas le corps du Christ, pas le pain, mais le sang, va être répandu pour une multitude. Et Matthieu ajoute pour une multitude en rémission des péchés. Donc là, on est sur la multitude, c'est pas seulement les disciples, mais c'est la multitude. Et on pense à Isaïe 53:12, qui élargit le salut au-delà des disciples. Bonjour Roselyne. C'est pas grave, on a démarré, tu relieras. Donc, on a le multitude qui fait référence à Ésaïe 53 et finalement qui élargit le salut à tous les hommes, voilà, et pas seulement aux disciples. Donc, dans Matthieu et Marc, on a le sang qui est sujet. Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance. Et là, on a une référence très claire à Exode 24:8. Donc, on est bien dans la dimension en lien avec l'ancienne Alliance. Au Sinaï, alors que Paul et Luc, eux, ils disent « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang ». Donc là, il insiste sur le côté « nouvelle alliance » qui est bu. Et là, on se réfère plutôt à Jérémie 31:31 avec cette idée de nouvelle alliance. Alors, dans ce saut qualitatif de la rédemption du Seigneur, cette nouvelle alliance, je voudrais parler du serviteur souffrant. Dans Isaïe, donc il y a plusieurs références, mais c'est principalement dans 53 que j'ai pris. Il y a quelques références en 42, Isaïe 42 et Isaïe 46, si je me souviens bien, 48. Donc on a ce serviteur souffrant, ce serviteur qui est une figure très mystérieuse, on ne sait pas vraiment qui c'est, et qui préfigure Jésus-Christ à l'heure de sa passion. On a arrêté, puis jugé, il a été supprimé. Qui donc s'est inquiété de son sort, il a été retranché de la terre des vivants, frappé à mort pour les révoltes de son peuple. Et là, on peut suivre vraiment la passion du Seigneur, arrêté, jugé, supprimé, qui s'est inquiété de son sort, abandonné de ses disciples, retranché de la terre des vivants, et donc qui plonge dans la mort, en fait. Et pour les révoltes de son peuple, et donc qui rachète quelque part en rançon pour la multitude. Donc, on a vraiment une description de la passion en avance, en anticipation. Ce qui est intéressant, c'est que le serviteur, il opère la guérison d'une multitude. Or, ça, aucun prophète biblique n'avait prétendu faire ça avant lui. Donc, on n'a pas du tout de référence dans l'Ancien Testament de prophète qui aurait opéré une guérison d'une multitude. Donc, on est avec le serviteur en face de quelqu'un qui dessille les yeux d'une multitude en retournant de l'intérieur ceux qui avaient applaudi à sa condamnation. Les multitudes de nations seront dans la stupéfaction pour avoir vu ce qui ne leur avait pas été raconté, pour avoir appris ce qu'ils n'avaient pas entendu dire. On a comme un retournement, c'est que finalement, et là on peut penser à la phrase du centurion au pied de la croix qui dit « Celui-ci était vraiment le Fils de Dieu ». Et donc c'est au moment où il est le plus blessé, où il est défiguré, que le centurion le reconnaît comme le Fils de Dieu. Et là on a un peu cette même idée, c'est une inversion. Le serviteur a été condamné et tué et finalement ils sont dans la stupéfaction en voyant qu'il y a quelque chose qui s'est joué là, qui était au-delà de ce qu'ils avaient imaginé. Donc ceux qui assistent à la condamnation reconnaissent que le châtiment qui nous vaut la paix était sur lui. Et donc c'est ceux-là même qui le condamnent, qui reconnaissent que finalement il était le porteur de la paix et que c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Donc, c'est des textes qu'on connaît assez bien parce qu'on les médite pas mal pendant la Semaine Sainte. Mais vraiment, moi, ça m'a éclairé d'une autre façon de voir cette similitude et cette humiliation du serviteur et de Jésus, finalement, qui porte tout le péché alors qu'il n'a rien fait, quoi. Voilà. Le serviteur se substitue au pécheur pour porter le châtiment. Et c'est bien l'alliance du peuple, la lumière des nations pour ouvrir les yeux des aveugles. Ésaïe 42, le premier chant. C'est grâce à ses plaies que nous sommes guéris. Donc là, on est l'œuvre accomplie par le personnage du livre d'Isaïe est prodigieuse. Le serviteur portait les péchés de la multitude. Il justifiera les multitudes. Donc on a vraiment grâce à ses plaies que nous sommes guéris. Et donc on a bien ce Jésus qui, parce qu'il a offert sa vie et jusqu'à cette souffrance sur la croix, que nous sommes guéris. Voilà. Alors, comment est-ce que le serviteur arrive à rendre juste les pécheurs? Alors là, on a l'impression qu'il ne fait rien de grandiose, il se fait juste, il est juste jugé et supprimé. Mais finalement, c'est la passion de Jésus qui va nous faire comprendre ce qui se passe là. La passion de Jésus, c'est pareil, il ne se passe pas grand-chose, c'est un condamné à mort, il n'y a pas de grands événements qui se passent, et pourtant, tout est là. Nous sommes sauvés par cette passion de Jésus. Alors, dans le thème de la nouvelle alliance, il y a aussi cette dimension de une fois pour toutes. C'est ça aussi la nouvelle alliance, c'est que c'est définitif maintenant. Le salut, il est réalisé, on est sauvé. C'est une fois pour toutes, alors j'en ai mis plusieurs références, et il insiste lourdement dans la lettre aux Hébreux, insiste sur le sujet. C'est une fois pour toutes à la fin des temps qu'il s'est manifesté pour détruire le péché par son sacrifice. Ainsi, le Christ s'est-il offert une seule fois pour enlever les péchés de la multitude. C'est pourquoi il est capable de sauver d'une manière définitive ceux qui par lui s'avancent vers Dieu, car il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Il n'a pas besoin, comme les autres grands prêtres, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses péchés personnels, puis pour ceux du peuple. Cela, il l'a fait une fois pour toutes, en s'offrant lui-même. Et donc ce sacrifice unique est efficace et dure dans le temps. Alors, le Hébreu le mentionne parce qu'il est toujours vivant pour intercéder. Donc, il y a comme une durabilité de la passion. C'est pas que Jésus continue à souffrir sur la croix, mais l'efficacité de la croix, elle est toujours présente. Et donc, elle est toujours efficace. Voilà. Alors, ce sacrifice, il est efficace parce que c'est Jésus lui-même qui s'est donné. Ce n'est pas un simple homme, c'est le Fils bien-aimé du Père, celui qui est consacré dans l'Esprit. Il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire en répandant non pas le sang des boucs et de jeunes taureaux, mais son propre sang. De cette manière, il a obtenu une libération définitive. Donc l'idée, ce n'était pas de promouvoir des sacrifices humains, ce n'est pas ce que Jésus a institué du tout, mais que l'offrande puisse agir sur la relation entre l'homme et Dieu. Et donc, il ne faut pas que ce soit quelque chose d'extérieur, comme le sang des animaux qu'on offrirait, mais quelque chose qui est vraiment l'offrande de soi, d'intime, de l'ordre de l'amour, du don de soi. Et c'est ça que Jésus a fait sur la croix. Alors, on pourrait se dire, du coup, ça prône quand même beaucoup le... finalement, c'est par la souffrance que Jésus nous a guéris. C'est parce qu'il y a cette souffrance. Alors, si on va un petit peu plus loin encore, et c'est ce que je voudrais voir avec vous dans ce troisième temps, c'est que finalement, le salut, pour qu'il y ait vraiment salut, il faut que ce soit un homme-Dieu qui le fasse. C'est-à-dire que si c'est que seulement du côté de Dieu, finalement, c'est Dieu pour Dieu, et donc nous, on n'est pas concernés par le sujet. Ce qui n'est pas assumé n'est pas sauvé. Et en même temps, si c'est qu'un homme, on voit bien qu'on n'y arrive pas. Et donc, c'est cette efficacité, c'est finalement l'obéissance d'un homme-Dieu. Alors, on va d'abord se pencher sur le sujet de seul un homme-Dieu pouvait nous sauver. Puisque les enfants des hommes ont en commun le sang et la chair, Jésus a partagé lui aussi pareille condition. Ainsi, par sa mort, il a pu réduire à l'impuissance celui qui possédait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et il a rendu libre tous ceux qui, par crainte de la mort, passaient toute leur vie dans une situation d'esclave. Donc on a bien, c'est Jésus parce qu'il est comme nous un homme, est en commun le sang et la chair, qu'il a pu nous rendre libres du péché et nous opérer le salut. Voilà. Donc jusqu'à l'avènement du Christ, le sang même innocent, lorsqu'il était répandu, manifestait l'emprise du péché et de la mort, car les rites étaient accomplis par des hommes qui restaient des pécheurs. Donc seul le sang versé par le Christ va pouvoir engendrer la vie véritable, la vie éternelle, la création d'un monde nouveau, parce que versé par celui qui est sans péché, fils de Dieu, homme-Dieu. Donc à la fois vrai homme et en même temps sans péché et donc du côté de Dieu. Alors je reprends le texte, ce que saint Anselme me dit dans le cours Deus Homo, on en a parlé un tout petit peu plus tôt. Là je voudrais le regarder dans une deuxième perspective. C'est que la seule solution pour nous sauver, c'est qu'un homme-Dieu apparaisse et qu'il offre sa vie par obéissance. Voilà. Aucune créature finie ne peut le faire. Un simple homme ne pouvait réaliser ce passage sans sombrer dans le néant. Et si même on supposait que l'offrande pût être offerte à notre place par un être divin, elle ne servirait encore de rien, puisqu'elle n'aurait pas de rapport avec l'offenseur. Donc seul Jésus-Christ, vrai homme et vrai Dieu, pouvait par son union hypostatique, c'est-à-dire la réunion du fait qu'il soit un vrai homme et vrai Dieu, recevoir et se redonner dans son unique acte trinitaire la vie divine. La miséricorde de Dieu est incommensurable à tel point que ni plus grand ni plus juste ne pouvait se penser. Alors, je ne vous ai pas mis le texte lui-même de Anselme parce que c'est un peu compliqué à lire et puis c'était un peu long. Donc, je vous ai fait un peu un résumé, on va dire, d'une partie. Donc, on a vraiment cette idée qu'on consiste pas à régler un compte, en fait, mais elle donne à l'homme... Donc là, on est de nouveau sur l'idée de la dette. Pardon, j'ai dû recopier un texte qui n'a rien à faire là. Et donc, on est bien... l'idée, c'est de s'unir réellement à Dieu comme un enfant, comme son enfant. Et c'est ce que peut faire Jésus, qui est le fils bien-aimé du Père, et en même temps, un vrai homme. Voilà. Et donc, on a cette alliance que Dieu propose à l'homme pour le sortir du péché et restaurer l'union, en fait. Et on a cette très jolie phrase, « Reçois mon unique et donne-le pour toi. » Donc, on a reçu Jésus sur la terre et on le donne à notre place en offrande à Dieu, en fait. Donc, la mort du Christ est l'acte sacerdotal par excellence, l'acte médiateur qui ouvre le chemin du ciel. Dieu choisit la chose même qui détruisait l'homme, la mort, pour manifester sa puissance et sauver l'humanité. Et la mort du Christ est le lieu de passage de l'humanité blessée à l'humanité transfigurée. Donc, c'est non seulement pour lui, mais pour nous. Alors, si on va encore un tout petit peu plus loin, c'est je voudrais travailler maintenant sur la partie obéissance d'un homme Dieu. Pendant les jours de sa vie dans la chair, il offrit avec un grand cri et dans les larmes des prières et des supplications à Dieu qui pouvaient le sauver de la mort, et il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu'il soit le Fils, il a pris par ses souffrances l'obéissance, et conduit à sa perfection, il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, la cause du salut éternel. Donc là, on a bien toute la thématique que c'est par l'obéissance. Il a pris par ses souffrances l'obéissance. Donc c'est l'obéissance en acte. C'est pas juste dire « oui, je le veux ». C'est de l'incarner, enfin le porter lui dans sa chair, qui peut conduire à la perfection et ainsi devenir la cause du salut éternel. Pour nous-mêmes qui lui obéissons. Donc nous aussi, on a quand même un acte d'obéissance à faire, mais ça, on le verra plutôt la fois prochaine. Voilà. Alors, on pourrait se dire, il offrit avec un grand cri dans les larmes des prières et des supplications à Dieu qui pouvaient le sauver de la mort, et il fut exaucé. On n'a pas l'impression qu'il fut exaucé puisqu'il est mort, mais en fait, il est exaucé dans le sens que son offrande est exaucée, et finalement, elle conduit à la vie éternelle puisqu'il est ressuscité, et que cette offrande a été efficace. Donc, c'est ça, le fait que ce soit exaucé. Donc, ce n'est pas effusion de sang qui fait la perfection du sacrifice du Christ, ni même le fait que ce soit un sang pleinement innocent, c'est que ce soit son obéissance. Obéissance qui n'est que l'accomplissement de la volonté du Père dans le don de soi. Voilà. Et ce n'est pas lui qui choisit, c'est vraiment, il accomplit ce qui était la volonté divine. Et ce don est parfait parce que l'obéissance est parfaite. Finalement, le Christ, en tant qu'homme, vraiment en tant qu'homme, il a obéi au Père de la même manière qu'en tant que Fils éternel, en fait. Et donc, on a cette obéissance qui est parfaite parce qu'il fait dans son humanité, finalement, il est le Fils éternel et qui, dans cette humanité, obéit parfaitement au Père. Pour que l'offrande du Christ au Père le salue, il fallait que ce soit un homme qui obéisse à Dieu pour inverser la logique du premier péché. Il fallait qu'une volonté humaine se greffe dans la volonté divine. Il fallait donc se rendre en tout point semblable à ses frères pour devenir un grand prêtre miséricordieux et digne de foi pour les relations avec Dieu, afin d'enlever les péchés du peuple. Et là, j'ai remis la phrase. Ainsi, en entrant dans le monde, le Christ dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as pas agréé les holocaustes ni le sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit « Me voici, je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté. » Et non seulement il le dit, mais il le fait. Et c'est grâce à cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande que Jésus-Christ a faite de son corps, une fois pour toutes, sur la croix. Alors, on a le passage de Gethsémani qui est très éclairant sur cette obéissance de Jésus, cette insertion de sa volonté humaine dans la volonté divine, cet accord parfait, qui s'est inscrit finalement à un moment de la vie terrestre de Jésus. Donc, ce n'est pas juste un truc théorique, c'est à un moment donné, et on s'est à Gethsémani, où il y a eu un point extrême, dans cette heure d'angoisse, où il se trouve seul face à la mission écrasante et où il dit quand même « Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, cependant non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. » Voilà. Ce n'est pas seulement la volonté humaine qui est unie à la volonté divine, parce qu'en Jésus, il y a les deux natures. C'est vraiment dans sa liberté d'homme qu'il unit sa volonté humaine à la volonté divine. Voilà. Et donc l'obéissance désigne exactement cette attitude pleinement humaine du Fils à l'égard de son Père, dans l'ordre de la liberté. Notre salut a été voulu humainement par une personne divine. Je ne cherche pas à faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est une phrase de Saint Jean. Et là où finalement le premier Adam, dans un jardin avec toutes les facilités, On dit souvent que l'Éden, c'était un joli jardin, n'a pas su préférer l'amour à son bien illusoire, le Christ, dans le cas le plus extrême de déréliction et de souffrance. Alors, le jardin des Oliviers, c'est pas un jardin c'est un peu austère. A préféré la fidélité à son père à la conservation de sa vie, qui pourtant était toute sainte. Là où le premier, Adam, a refusé de porter sa responsabilité face au mal, le second, Jésus, s'est chargé d'une faute qui n'était pas la sienne. Et donc, le renversement est complet. Donc on a cette obéissance et cette adéquation de la volonté. Et finalement, on voit dans la dernière scène que Jésus fait ce qu'il avait dit dans le discours du bon pasteur. « Personne n'enlève ma vie, mais je la dépose de moi-même. » C'était en Jean 10, donc bien avant la passion. Et finalement, la vie qui lui sera enlevée sur la croix, eh ben, on pourrait dire qu'il est juste conduit comme un agneau à l'abattoir. Et donc finalement, il n'a pas décidé. Ben si, il l'offre lui-même. Et c'est aussi tout cette importance de la dernière scène et de Gethsémani, c'est que les choses sont conscientes, c'est vraiment Jésus qui offre, même si le lendemain, eh ben, il est conduit, en fait. Et donc, c'est pas lui qui il est jugé, et ensuite, il est conduit. C'est plus lui qui mène la danse, mais c'est lui qui l'a bien offert en avance de phase, pour bien montrer que c'est son choix à lui, en toute liberté. Donc, il l'offre, il transforme cette mort violente, qui pourrait être juste une condamnation, en un acte libre de don de soi pour les autres et aux autres. Et il le sait, puisqu'il dit « j'ai le pouvoir de la déposer, j'ai le pouvoir de la reprendre ». Il donne sa vie en sachant que de cette façon, il la recevra de nouveau. C'est intéressant de voir que le verbe grec a les deux sens de prendre et de recevoir. Donc, on a un peu ce jeu. Donc, c'est pas qu'il savait que de toute façon, bah, il y aura la résurrection derrière. Bah, peut-être, mais il fallait quand même qu'il passe par la mort et la souffrance et la croix. Donc voilà, ça n'enlève rien. Et dans l'acte de donner sa vie, on a déjà la réponse du Père qui est incluse, et ce sera la résurrection. Donc on a déjà il est exaucé, c'est bien ça qui est déjà là, quoi. Et c'est aussi pour ça qu'à la scène, il peut, de façon anticipée, se distribuer lui-même. Parce que finalement, ce qu'il offre, c'est pas son corps mort du lendemain, c'est son corps de ressuscité, en fait. Donc il est déjà, non seulement il anticipe l'offrande le lendemain de son corps, mais il anticipe aussi finalement la résurrection, puisqu'il offre un pain de vie, il offre pas un corps mort en fait. C'est pas ça que nous avons dans l'Eucharistie. Donc il offre sa vie, il s'offre lui-même, et il est déjà dans le grain de blé qui meurt, mais qui va produire du fruit en fait. Et donc on est dans la vraie multiplication des pains. Voilà, c'est des choses que j'ai reprises dans Benoît XVI. Sur la croix, Jésus a connu la plus complète déréliction, donc on avait déjà ça à Gethsémani, mais sur la croix, c'est encore plus, puisqu'il ne ressent même plus la présence du Père. Il répète les paroles du psaume 22, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Donc, c'est pas qu'il s'adresse à un Dieu qui, pour l'instant, lui paraît silencieux. Il souffre de cette absence. Il a un extrême besoin de relation à lui. Et donc, cet appel est déjà montre ce lien toujours avec le Père. Mais ce sentiment d'abandon, il est insondable. On ne peut absolument pas imaginer qu'est-ce que ça veut dire pour le Christ, le Fils bien-aimé du Père, celui qui est dans le sein du Père, qui vit de lui. Comment il peut vivre ces heures où il a l'impression d'être sans son Père. Voilà, c'est un vrai déchirement. Qui est en contradiction complète avec ce qu'il est, son être de fils. Et là, de même de la mort et de la souffrance qu'il doit subir, ce déchirement entre sa condition d'adorateur parfait du Père, de fils éternel, de dispensateur de vie, et puis ce qu'il vit sur la croix. Voilà. Et donc, même au centre de ce déchirement, le Christ il s'adresse toujours à son Père avec confiance. D'abord pour demander son pardon pour nous, donc il est complètement dans sa mission. Et même à ce moment-là, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et puis, il s'abandonne à son Père de toute sa volonté. « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » C'est une citation du psaume que nous retranscrit Luc et qui est très semblable à ce qui s'est passé à Gethsémani. Alors, je voudrais finir avec, finalement, la résurrection, parce que la passion sans la résurrection, comme je l'ai dit tout à fait en introduction, eh ben, notre foi, elle serait vaine. Donc, c'est parce que la passion, elle mène à la résurrection, et c'est parce qu'il y a la résurrection que c'est dans tout ce mouvement-là, et c'est par la résurrection, finalement, qu'on a le tampon du salut. Voilà. Donc, le Père, il ne veut pas la violence de la mort. C'est la conséquence effroyable du péché. Voilà, ce qu'il veut, c'est l'amour absolu de son fils, son don total. Et finalement, ce que symbolise la mort du Christ, c'est ce renoncement total à soi-même par amour de l'autre. Donc l'obéissance jusqu'à la mort ou l'obéissance comme mort de la volonté, c'est ce qu'on vient de voir. Et ça, c'est ce qui va ouvrir à recevoir parfaitement son humanité, la marque du vouloir divin, le sceau de l'amour par la résurrection. Donc c'est comme une sorte d'échange où il avait eu son corps humain dans l'incarnation par l'Esprit Saint qui avait reposé sur Marie. Et là, on a sur la croix, par cette offrande dans la mort sur la croix, eh ben, on a finalement une humanité divine, enfin quelque chose de... Voilà, l'humanité glorieuse finalement qui vient sur lui et qui sera dans la résurrection. Et c'est dans ce corps du Christ, qui pourtant est défiguré sur la croix, qu'on a la clé de voûte de ce basculement, où finalement on a rupture avec le péché et l'ouverture à la vie, à la vraie vie, la vie éternelle, en fidélité à Dieu, qui ne détruit pas sa créature, mais qui la sauve. Donc on pourrait voir une apparence de destruction de la vie sur la croix, et finalement c'est la résurrection qui est là et la vie éternelle. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Phrase de Saint Jean. Et c'est bien ce qu'a fait Jésus dès le lavement des pieds, donc on est même avant la scène. Jésus a rendu à ses disciples le service de l'esclave. Donc il s'est anéanti jusque-là, donc dans un geste complètement contraire à celui d'Adam qui avait essayé par ses propres forces d'allonger le bras pour conquérir le divin en mangeant le fruit de l'arbre. Le Christ, lui, à l'inverse, il est descendu de sa condition divine, il est devenu un homme, il prend la condition d'esclave, il s'est fait obéissant jusqu'à la mort sur une croix, ça c'est toute l'hymne aux Philippiens. Il se dépouille de sa splendeur divine, il s'agenouille devant nous, il lave nos pieds comme l'esclave pour nous rendre capables du banquet nuptial. Son amour serviable nous fait sortir de notre orgueil et nous rend capables de Dieu. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Toujours Philippiens. Donc on a vraiment cet abaissement de Jésus qui va jusque-là et qui est vraiment le don de l'amour et qui fait qu'il va rejaillir et exalter dans la résurrection. Alors dans la résurrection du Fils de l'homme, on a quelque chose qui est totalement différent qui s'est produit. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu Jésus qui est revenu à la vie normale de ce monde. C'est pas la résurrection de Lazare ni des autres morts que Jésus a ressuscité. On a quelque chose d'un genre de vie totalement nouveau, une sorte d'évasion, une nouvelle vie, qui n'est plus soumise à la loi de la mort et de la corruption, ça c'est clair, Jésus ne remourra pas, contrairement à Lazare, mais qui est située au-delà, une vie qui a inauguré une nouvelle dimension de l'être homme. Et on voit que c'est aussi compliqué pour les disciples de comprendre la résurrection que d'accepter la croix, ou d'accepter la résurrection que de comprendre la croix. Les deux mots sont... Voilà, ces choses sont... L'expérience, elle devait être unique, parce que c'était pas exactement juste un mort qui ressuscite, c'était au-delà, quoi. C'était quelque chose de complètement nouveau qui dépasse toute expérience, et qui pourtant est incontestable, puisqu'aucun des disciples ne remet en cause le fait que Jésus est bien présent de manière réelle, il est vivant. Il leur a parlé, il leur a permis de le toucher, même si, alors que normalement, il n'appartient plus au monde de ce qui est normalement touchable, confère la phrase de Jésus à Marie-Madeleine qui lui dit « Ne me tiens pas, il faut que, avant que je sois montée vers mon Père. » Donc il y a quelque chose de... Voilà, on a une nouvelle réalité qui pourtant est très réelle, peut-être même plus réelle que la vraie vie, que notre vie actuelle, mais qui est inouïe. Voilà. Et donc on a dans la résurrection de Jésus finalement une nouvelle possibilité d'être homme qui est atteinte. Une possibilité qui intéresse tous les hommes et ouvre un avenir complètement nouveau pour nous les hommes. C'est la vie éternelle, c'est cette glorification, c'est une nouvelle vie pour nous. Et donc on a un espace nouveau qui est au-delà de l'histoire finalement, puisqu'il y a quelque chose de caractère définitif de ça. Et là on vient sur le fait que l'alliance, la nouvelle alliance, elle est définitive une fois pour toutes. Et qui est ouvert pour tous. Donc c'est vraiment pour tous les hommes. Il attire à nous, il attire à lui tous les hommes. Et donc, avec son propre corps, l'homme Jésus appartient aussi et totalement à la sphère du divin et de l'éternel. Tertullien nous dit, à partir de ce moment, l'esprit et le sang ont leur place en Dieu. Bah oui, maintenant en Dieu, depuis l'ascension du Seigneur, et ben, il y a un corps humain en Dieu, en fait. C'est une chose complètement inouïe parce que c'est pas un corps humain tel que nous on l'a, c'est un corps glorifié. Donc c'est une nouvelle forme d'être, en fait, à laquelle nous sommes appelés. Et c'est en ça aussi qu'on peut dire qu'on n'est plus seulement dans la restauration, finalement, de la situation d'Adam. On est vraiment dans quelque chose de complètement nouveau. Et on est dans une surabondance du salut, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement le retour au paradis, à l'Éden, ce n'est pas le retour à une restauration d'un lien avec Dieu, c'est quelque chose d'une divinisation, et on en parlera plus la fois prochaine, la divinisation de l'homme. On a un nouveau statut d'un être homme, voilà. Cet éloignement extrême du Fils incarné par rapport au Père signifie aussi immédiatement son retour à lui. Et donc, on a dans la croix, sur la croix, cette impression que le Fils est complètement éloigné du Père, il se sent abandonné. Et pourtant, c'est immédiatement le retour. Alors, immédiatement, il y a un tout petit peu le temps du samedi saint, mais voilà, c'est immédiatement le retour à lui. Et puis, il y a aussi les 40 jours avant l'ascension. Voilà, c'est, après, le temps s'étire un peu. Mais on a ce retour du corps finalement outragé sur la croix au corps glorieux. Et la mort est l'acte ultime de l'homme-dieu qui ouvre la porte du ciel et donc de ce nouveau être homme, en fait. Et c'est pour ça qu'on peut porter la croix et non pas porter un symbole de la mort, mais porter un symbole de la vie. Et la croix pour nous est la vie. Alors en conclusion, je vous ai mis 4 citations. Voilà, parce que je pense que beaucoup d'autres personnes parlent mieux que moi. D'une part, avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde vers le Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'à la fin. Et donc on a vraiment cet amour jusqu'au boutiste de Jésus. Avec la dernière scène est arrivée l'heure de Jésus vers laquelle son œuvre était orientée depuis le début et qu'il a portée depuis le début. L'essentiel de cette heure est circonscrite par Jean avec 2 paroles fondamentales. C'est l'heure du passage de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance, du passage de l'homme tel qu'il est aujourd'hui à l'homme glorifié. Et c'est l'heure de l'amour. Finalement, l'amour même est le processus de passage, de la sortie des limites de la condition humaine vouée à la mort, dans une altérité que nous ne pouvons pas dépasser. La sortie par-delà les barrières de l'individualité fermée, qui est précisément l'agapé. L'irruption dans la sphère divine, jusqu'à la fin, car c'est la totalité du don, c'est achevé. Sortie de Jésus du sein du Père et retour vers le Père, où Jésus n'abandonne pas la chair mais attire à lui tous les hommes. Et finalement, emmène la chair au ciel. Voilà, ça c'est un texte toujours de Jésus Nazareth de Benoît XVI. Alors une phrase du Père Giton que je trouve très, très éclairante sur ce qui s'est joué dans le salut. Jésus se trouve jeté au beau milieu du contentieux immémorial qui sépare Dieu et l'homme. Il est pris en tenaille dans sa double solidarité, avec les hommes pécheurs d'un côté et avec la sainteté de Dieu. Et le choc qui atteint son paroxysme dans la croix, il trouve aussi son dénouement. Et finalement, c'est dans ce nœud sur la croix où l'homme pécheur s'allie quelque part à la sainteté de Dieu dans l'obéissance du Fils éternel. Et par ce choc, il y a quelque part comme les racines du mal et de la souffrance, les racines du péché qui explosent. Et finalement, la vie nous mêle qui peut émerger, et c'est le dénouement. Voilà, c'est le dessein de Dieu qui se réalise. Et puis une dernière phrase du cardinal de Lubac. Par le Christ mourant sur la croix, l'humanité qu'il portait tout en lui se renonce et meurt. Mais ce mystère est plus profond encore. Celui qui portait en lui tous les hommes était délaissé de tous. L'homme universel mourut seul. Plénitude de la kénose et perfection du sacrifice. Il fallait cet abandon et jusqu'à ce délaissement du Père pour opérer la réunion. Mystère de solitude et mystère de déchirement, seul signe efficace du rassemblement et de l'unité, glaive sacrée allant jusqu'à séparer l'âme et l'esprit, mais pour y faire pénétrer la vie universelle. Donc là, on a vraiment toute la thématique de l'abaissement complet de Jésus, la perfection du sacrifice, et finalement ce mouvement qui nous monte vers la vie universelle. Voilà. Et avec le glaive qui avait été annoncé à Marie à la présentation au temple et qui sépare finalement l'âme et l'esprit et qui permet la vraie réunion de l'âme et l'esprit dans la vie nouvelle. Voilà ce que je voulais vous partager. J'espère que je ne vous ai pas complètement perdu. C'était comme d'habitude un peu trop dense. Mais c'est très compliqué de... Voilà. Il y a encore plein de choses à dire parce qu'il y a plein de passages que je n'ai pas cités. Voilà, il y a plein de choses qu'on pourrait rajouter. Et donc, je vous invite particulièrement à lire la lettre aux Hébreux que je trouve très, voilà, qui permet vraiment de méditer sur ça. Alors il y a beaucoup beaucoup de références parce que c'est très lié à l'Ancien Testament, mais ça montre bien ce dessein de Dieu qui s'accomplit dans le temps. Et puis ben toujours Benoît XVI, voilà, Jésus Nazareth 2, vous avez lu le tome 1, maintenant vous avez le 2. Ça peut vous accompagner aussi dans ce temps de carême. Voilà.